Will you?
Qu'est-ce que ça veut dire, une méditation dynamique?
Tu croyais qu'on avait parlé de ça l'autre jour, non? On n'avait pas parlé de méditation dynamique l'autre jour? Quelqu'un m'a posé exactement cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une méditation dynamique? C'est une méditation qui a le pouvoir de transformer votre être. C'est une méditation qui est progressive. Ce n'est pas une méditation en contradiction avec une méditation statique qui est immobile et relativement inerte et qui ne change rien dans votre conscience ni dans votre manière d'être. Une méditation dynamique est une méditation de transformation. Généralement, les gens n'ont pas de méditation dynamique. Quand ils entrent en méditation, ce qu'ils appellent méditation, ils entrent dans une espèce de d'immobilité où rien ne bouge. Et ils en sortent exactement comme ils y sont entrés. Sans aucun changement dans leur être, ni dans leur conscience. Et plus c'est immobile, plus ils sont heureux. Et ils pourraient méditer comme ça pendant des éternités. Ça ne changerait jamais rien à l'univers ni à eux-mêmes. Et là, c'est pour ça qu'il parle de méditation dynamique, qui est justement tout le contraire. C'est une méditation transformatrice.
Est-ce que c'est fait? Comment est-ce que c'est fait, justement? La manière de le faire, c'est différent, n'est-ce pas?
Je pense que c'est l'aspiration qui doit être différente. C'est l'attitude qui doit être différente. Manière, qu'est-ce que tu appelles la manière? De s'asseoir? La manière intérieure. Mais pour chacun, c'est différent, non? Je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir pourquoi on médite. Et que c'est ça qui donne la qualité d'un ordre ou d'un autre à la méditation. On peut méditer pour s'ouvrir à la force divine. On peut méditer pour rejeter la conscience ordinaire. On peut méditer pour entrer dans les profondeurs de son être. On peut méditer pour apprendre à se donner intégralement. On peut méditer pour toutes sortes de choses. On peut méditer pour entrer dans la paix, le calme et le silence. C'est généralement ce que les gens font sans y réussir très bien. Mais on peut méditer aussi pour recevoir la force de transformation, pour découvrir les points à transformer, pour se tracer le chemin du progrès. Et puis on peut aussi méditer pour des raisons très pratiques, quand on a une difficulté à résoudre, une solution à trouver, qu'on veut être aidé dans une action quelconque. On peut méditer pour ça aussi. Il y a des... Je pense que chacun a son propre mode de méditation. Mais si on veut que la méditation soit dynamique, comme c'est décrit, il faut avoir une aspiration de progrès. Et que la méditation soit faite pour favoriser et satisfaire cette aspiration qu'on veut. Alors ça devient dynamique. C'est tout.
Mais ici c'est écrit, peu importe quel est le don et à qui nous le faisons. Et puis, il doit y avoir dans l'acte la conscience que nous le présentons à l'être divin. Ces deux phrases sont contradictoires, n'est-ce pas, Ismaël?
Non. C'est parce que tu ne comprends pas la tournure de phrase française. Ça veut dire, il importe peu quelle est la nature du don que nous faisons et à qui nous le faisons, pourvu qu'il soit fait comme un acte de consécration au divin. C'est ce que je dis aux gens en d'autres termes quand je leur dis, quel que soit le travail que vous faites, vous allez au bureau, vous tenez des comptes, vous conduisez une automobile, n'importe ce que vous faites, quel que soit le travail que vous faites, et naturellement, pour qui vous le faites, eh bien, il faut que ce soit une offrande divine. Il faut qu'en le faisant, vous ayez le souvenir du divin et que vous le fassiez comme une expression de votre consécration au divin. C'est ça qu'il dit. Pas autre chose. Sinon, la construction de la phrase, tu n'as pas su. Le second commande le premier. On pourrait retourner la phrase et mettre le morceau de la fin, on pourrait le mettre au commencement. Et alors le sens serait plus facile à comprendre. C'est tout. Rien. Non, c'est pas maintenant, elle est timide. Je reviens.
Excusez-moi, j'ai une question que quelqu'un d'autre a demandé.
Ah, voyons. Pourquoi cette personne n'est pas ici?
Oui.
N'ose pas parler? Alors, dis ta question.
Si les dates de sorte 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4, 5, 6 sont signifiantes, et de quel point de vue?
Quoi?
Si les dates de sorte 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4, 5, 6 sont signifiantes, et de quel point de vue?
Ont une signification, tu veux dire?
Oui.
Quelle drôle, drôle de façon de poser la question. Je peux répondre par une plaisanterie, si vous voulez. On parle maintenant de changer la façon de d'écrire l'almanach ou le calendrier. Si on le change, ça changera de numéro, et puis toute l'histoire sera partie en volée. C'est une convention, n'est-ce pas? Évidemment, si la convention est généralisée, comme on a essayé de le faire, ça peut devenir une formation très puissante. Mais il faut qu'elle soit adoptée d'une façon très étendue pour que ça devienne une formation puissante. C'est-à-dire, ce que j'appelle formation, c'est des images que l'on peut animer d'une force et que l'on peut prendre pour des symboles. Mais il y a des gens qui se font des images à eux-mêmes et qui en font des symboles pour eux-mêmes. Et pour eux-mêmes, ça peut être très utile et très valable. Comme par exemple les symboles des rêves. Mais ce n'est valable que pour eux. C'est une chose purement subjective. Mais si vous avez une chose comme ça, comme un calendrier adopté par la presque totalité des êtres humains, alors votre symbole peut agir sur un champ beaucoup plus étendu. Mais à l'origine, c'est la même chose, c'est une convention. Naturellement, n'est-ce pas? Ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués parce que ça a été comme ça quand nous étions tout petits. Mais ça dépend du pays où on est né, n'est-ce pas? Et de la communauté dans laquelle on est né. Il y a des gens qui comptent différemment. Et alors, là, pour eux, ce sont d'autres chiffres à d'autres moments qui ont une signification symbolique. Seulement, si la formation que vous avez, dans laquelle vous êtes né, que vous avez adopté, si cette formation-là est adoptée par l'immense majorité humaine, vous pourrez agir sur cette majorité en agissant sous cette à travers cette formation. Vous ne pouvez agir à travers une formation que dans la mesure où cette formation est adoptée par un nombre de gens. c'est purement conventionnel. On a commencé à compter à partir d'une certaine date, qui a été choisie d'ailleurs d'une façon tout à fait arbitraire. On a commencé à compter à partir de ce moment-là, et on a et alors les chiffres sont arrivés à ce qu'ils sont maintenant. Mais par exemple, il n'y a qu'à se transporter dans une communauté musulmane où ils ont commencé à compter à partir de, je ne sais pas si c'est la naissance ou la mort de Mohammed, et alors leur chiffre est tout à fait différent. Alors pour eux, si vous venez leur dire de 2, 3, 4, 5, 6, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire, 2, 3, 4, 5, 6, rien du tout. Mais ces choses-là peuvent être prises utilement comme des symboles et des moyens de mettre en contact quelque chose de plus subtil avec quelque chose de plus matériel. On peut s'en servir comme ça. C'est tout. Mais si, n'est-ce pas, au lieu de millions de gens qui se servent de ce calendrier qui est adopté maintenant, s'il y en avait 3 ou 4, et ça n'aurait aucun effet de dire que ces chiffres sont symboliques, ils ne sont symboliques que pour 3 ou 4 personnes. Alors, ce n'est pas la chose en elle-même qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. C'est ça qui est important. C'est la même erreur que les gens font avec les astres et les horoscopes. C'est tout simplement un langage et une convention. Et si on adopte cette convention, on peut l'utiliser pour faire du travail. Mais ça n'a qu'une valeur relative et proportionnelle au nombre de gens qui l'ont adopté. Dans le monde relatif, nécessairement, il n'y a rien d'absolu. Alors, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, parce que ça vous fait un petit cerveau qui est étroit comme ça. Plus on est primitif, plus on est simpliste, et plus ces choses-là prennent des valeurs de superstition. Les superstitions, c'est tout simplement une généralisation abusive d'un fait particulier. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui passe sous une échelle. Sur le haut de l'échelle, il y a un ouvrier qui travaille et par une coïncidence malencontreuse, il laisse tomber son outil qui vous tombe sur la tête et qui vous casse la tête. Ça, c'est un fait, et l'homme a la tête cassée. Mais celui qui le voit et qui après fait une règle générale et dit c'est de passer sous une échelle est un signe de malheur. Ça, c'est une superstition. Et c'est comme ça que toutes les choses se font. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de connaissances qui sont exactement, exactement la même origine. Par exemple, si un certain médicament a, par un concours de circonstances favorables, guéri un certain nombre de gens, immédiatement on proclame que ce médicament est tout puissant pour cette maladie. Mais ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que si on administre le même médicament de la même façon à 100 personnes, il y aura des effets qui seront quelquefois diamétralement opposés et qu'il n'y aura même pas deux effets semblables. Par conséquent, ce n'est pas la vertu du médicament lui-même. De croire dans ce médicament est une superstition. Et au fond, il y a une très petite différence entre les sciences et les superstitions. C'est peut-être seulement dans le soin que l'on prend à s'exprimer. Si on prend soin, comme les savants, de dire il semble que ce soit comme ça, on dirait que, alors là, on n'a plus de superstition. Mais autrement, quand il dit c'est comme ça, c'est nécessairement une superstition. Voilà. Alors, la personne qui t'a posé la question, tu lui répondras comme ça. Si avec 3, 4, 5, 6, ou avec 2, 3, 4, 5, 6, il vous arrive quelque chose d'exceptionnel et que vous ayez une révélation intérieure ou extérieure, vous pourrez proclamer que ce sont des dates exceptionnelles. Mais s'il ne vous arrive rien, ça ne sera pas pour vous une date exceptionnelle du tout. Ce sera une date comme toutes les autres. Il y avait une très vieille tradition, très très vieille, plus vieille même que les traditions védiques ici, qui disait « Si 12 hommes de bonne volonté s'unissent pour appeler le divin, le divin est obligé de venir. » Eh bien, ça peut être une vérité, ça peut être une superstition. Peut-être que ça dépend des 12 hommes de bonne volonté, ce qu'ils sont. Peut-être que ça dépend d'autre chose aussi. Et moi, je dis que probablement, c'est arrivé comme ça. Qu'au début, 12 hommes se sont réunis Il se trouvait qu'ils étaient douces, peut-être qu'ils ne savaient même pas pourquoi. Et qu'ils étaient tellement unis dans leur aspiration et qu'ils ont réussi une aspiration tellement intense et puissante qu'ils ont eu la réponse. Mais alors, de dire si 12 hommes de bonne volonté se réunissent dans une aspiration, ils sont sûrs de faire descendre le divin, ça c'est une superstition. Ça a dû arriver. Et celui qui l'a noté l'a mis comme ça. Si 12 hommes de bonne volonté unissent leur aspiration, le divin est obligé de venir. Et depuis ce moment-là, je peux dire qu'il y a une quantité considérable de 12 gens qui se sont unis dans une aspiration et puis qui n'ont pas fait descendre le divin. Mais on a tout de même laissé la tradition intacte. Voilà. Plus rien? Non? Nous sommes beaucoup plus de 12. Si on essayait une fois pour voir si ça réussit.